Ça va?
Les bâtards, ça t'a mis là.
La pluie?
Salut!
Yo! Pourquoi pas?
Hola, hola, hola.
J'ai froid. Hola, buenos días!
Merde!
Wie geht es dir?
Café.
Non.
Hey!
Un petit bon bout
de donnez la voix.
Donnez la voix.
Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Donner la Voix. Nous avons souhaité consacrer cet épisode à la Semaine des Afriques et avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le président de l'Institut des Afriques, René Otaïek. À cause du contexte actuel, il n'a pas pu se rendre au studio d'enregistrement, donc nous allons effectuer cet entretien par téléphone. Voilà, je lance l'appel.
Allô?
Oui, bonjour, monsieur Otaïek.
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est Lou de la radio Paul Bert.
Oui, je m'en doute. Comment allez-vous?
Ça va bien, et vous?
Ça va, je vous remercie.
Bon, je ne sais pas si vous êtes prêt pour le petit entretien.
Toujours prêt.
Toujours prêt?
Toujours prêt. Aucun souci.
Donc là, on est déjà en train d'enregistrer.
D'accord.
Voilà. Nous sommes ravis de vous recevoir parmi nous. Sachez-le.
Écoutez, le plaisir est réciproque, partagé.
Voilà, bon, on aurait bien voulu vous rencontrer au studio, mais bon, malheureusement...
Oui, mais bon, attendant des jours meilleurs.
Oui, exactement.
En espérant qu'ils ne tarderont pas trop, parce que ça commence à bien faire, là.
Oui, ben je partage votre avis.
Voilà, mais bon, on n'a pas trop le choix, malheureusement.
Oui, il faut faire avec, écoutez.
Voilà.
Bon.
Il faut être résilient, comme on dit maintenant. C'est un mot qu'on met à toutes les sauces. Et je fais comme les autres, moi. Voilà.
Bon. Je vous écoute. Je vais peut-être vous laisser d'abord vous présenter.
Oui.
Dites-moi qui vous êtes. Peut-être nous parler un peu plus amplement de l'Institut des Afriques.
D'accord. Bon, mais écoutez, donc je suis René Otaïek. Je suis le président de l'Institut des Afriques. Je suis également directeur de recherche émérite au CNRS à Sciences Po Bordeaux. L'Institut des Afriques est une structure type loi 1901 qui regroupe sous une forme fédérative une quinzaine d'autres structures. Alors, il y a des institutions comme la région Nouvelle-Aquitaine, le conseil départemental de la Gironde, la ville de Bordeaux. Il y a également des acteurs de la solidarité et de la coopération internationale, comme le réseau Sud-Ouest Coopération, le RADZI, le COSIM Nouvelle-Aquitaine. Il y a également des acteurs du monde syndical, comme notamment l'Union des travailleurs sénégalais en France, des acteurs, je l'ai dit, de la solidarité internationale, Alif en particulier. Il y a des opérateurs culturels importants, notamment le Rocher de Palmer, qui a adhéré à l'IDAF il y a quelques semaines maintenant, et nous en sommes ravis. Il y a également MC2A, et puis il y a le monde universitaire, le monde de la recherche, avec notamment l'Institut de formation et d'appui aux initiatives du développement et le laboratoire Les Afriques dans le monde de Sciences Po Bordeaux. Donc toutes ces structures se retrouvent au sein de l'Institut des Afriques. Chacune garde bien évidemment son identité propre, mais nous travaillons en synergie sur la base de l'intérêt partagé que nous avons pour les sociétés africaines, aussi bien d'ailleurs l'Afrique au sens continental du terme, mais également les Caraïbes, mais également les sociétés issues de la traite négrière. Et puis enfin, je n'oublie pas les diasporas présentes sur nos territoires, les diasporas africaines, avec lesquelles nous essayons également de construire des synergies autour d'objectifs et d'intérêts partagés.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus amplement de ces objectifs dont vous parlez ?
Alors, si vous voulez, je pourrais résumer l'objectif en ce qui concerne en tout cas l'Institut des Afriques par une simple phrase. Lutter contre l'image négative qui continue d'être véhiculée dans notre pays, mais également au-delà, l'image négative de l'Afrique et des sociétés africaines. Voilà, il y a beaucoup à faire parce qu'on entend encore trop souvent, aussi bien dans certains médias que dans le discours politique, que dans le discours scientifique, le discours universitaire, on entend encore un certain nombre de choses tout à fait inacceptables, en tout cas critiquables sur les sociétés africaines. Et l'objectif global que se fixe l'Institut des Afriques, c'est précisément de déconstruire ce discours et d'essayer d'apporter une autre vision des sociétés africaines, d'essayer de porter un autre discours sur les sociétés africaines, étant entendu qu'il ne s'agit pas de faire de l'angélisme et de faire comme si tout allait bien. On est parfaitement conscient qu'il y a des problèmes qui se posent aux sociétés africaines d'ordre politique, sanitaire, économique, environnementaux, etc., etc. Mais voilà, on dit également, on prétend également qu'il y a beaucoup d'inventivité, beaucoup de créativité, beaucoup de dynamiques tout à fait positives dans les sociétés africaines, et ce sont ces dynamiques-là que nous essayons de mettre en valeur et de mettre en évidence et de valoriser.
D'accord, donc un réel travail de déconstruction finalement.
Tout à fait, un travail de déconstruction qui est tout à fait nécessaire encore. Parce que, comme je l'ai dit, on entend encore beaucoup de choses très très négatives ou erronées sur les Afriques, sur les sociétés africaines. Mais on n'est pas uniquement dans la déconstruction. On essaye de proposer également, en partenariat donc avec les diasporas, en partenariat avec les acteurs africains eux-mêmes, on essaye de proposer une vision, je dirais, renouvelée des sociétés africaines. Débarrasser, je dirais, du legs colonial et néocolonial.
D'accord. Et la Semaine des Afriques, qui est donc en partie, il me semble, organisée par l'Institut des Afriques, va dans ce sens-là ?
Tout à fait. La Semaine des Afriques est l'événement phare de l'Institut des Afriques depuis 6 ans maintenant, puisque cette année, nous en serons à la 6e édition. La Semaine des Afriques est organisée donc par l'Institut, mais en partenariat avec un certain nombre d'acteurs comme la région Nouvelle-Aquitaine, la DRAC, l'Agence de services civiques, le département de la Gironde, la ville de Bordeaux, et bien évidemment toutes les autres structures qui sont membres de l'IDAF. Alors, cette année, donc le thème générique de la Semaine des Afriques, c'est les défis écologiques. Parce que les problèmes que nous connaissons ici, les problèmes environnementaux, les problèmes de pollution, les conséquences du changement climatique sont également des problèmes qui se posent sur le continent africain. Et donc, nous portons la focale sur sur cette problématique-là cette année. Alors, normalement, c'était le cas des cinq premières éditions. La Semaine des Afriques, c'est comme son intitulé le dit, c'est une semaine sur laquelle se déploient entre 20 et 25 événements répartis en différents points du territoire bordelais, girondin et néo-aquitain. En particulier à La Rochelle, à Poitiers et à Pau et à Limoges. Sauf que cette année, crise sanitaire oblige, on a été obligé de s'adapter. On a été obligé de supprimer purement et simplement un certain nombre d'événements qui ne pouvaient se faire que en présentiel, avec donc dans des endroits physiques, avec un public, chose tout à fait normale. Et donc on est et pour les autres événements qui pouvaient s'y prêter, ben on passe à au virtuel. On aura recours à Internet et ça va nous permettre quand même de maintenir un certain nombre d'événements auraient dû être totalement supprimés. Donc voilà, on essaie de s'adapter, on fait comme tous les acteurs, comme tous les acteurs culturels malheureusement. On est confiant dans le fait que cette Semaine des Afriques, même écourtée, même tronquée, va permettre de dire un certain nombre de choses tout à fait intéressantes.
D'accord. Vous disiez que vous aviez organisé tout un ensemble d'événements qui n'auront finalement pas lieu en présentiel. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus avant de parler plus amplement de ceux qui auront lieu du coup, de janvier à mai, il me semble, 2021.
Oui, c'est ça. Alors oui, effectivement, nous avions programmé 15 événements.
D'accord.
D'ailleurs, je voudrais indiquer que cette année, comme l'année dernière, nous avons travaillé très étroitement en partenariat avec des associations, des opérateurs culturels qui ont répondu à notre appel à proposition, qui ont présenté leur projet. Il y a eu un arbitrage qui a permis d'en retenir un certain nombre avec un petit financement à la clé, pas très important, mais tout de même un petit financement à la clé qui leur a permis donc de réaliser le projet sur lequel ces structures s'étaient engagées. Donc, malheureusement, on a été obligé d'en supprimer un certain nombre, comme je l'ai dit. Mais voilà, ce sont des petites graines que nous avons semées et nous espérons bien évidemment renouveler l'opération pour la 7e édition de la Semaine des Afriques en janvier 2022, avec l'espoir cette fois-ci qu'on en aura fini avec la crise sanitaire et qu'on pourra donc avoir une semaine tout à fait normale.
Oui, je l'espère aussi. Et du coup, concernant les événements en ligne, comment est-ce que ça va se passer? Comment les gens pourront s'y rendre et y participer
Voilà. Alors, je vais donner quelques événements qui ont été maintenus. Je commencerai par une table ronde qui aura lieu mardi prochain, donc à 10h. Une table ronde portant sur les enjeux environnementaux du 21e siècle, avec cette question: peut-on penser l'écologie du point de vue de la mémoire coloniale?
D'accord. Hein?
Donc, cette table ronde aura lieu au musée d'Aquitaine, mais elle sera diffusée en live sur la page Facebook de l'Institut des Afriques, auquel tout un chacun peut accéder. Un autre événement important, maintenu dans le cadre de cette semaine un peu particulière, une rencontre littéraire. Alors, il faut savoir que depuis plusieurs années maintenant, la Semaine des Afriques s'enrichit d'une rencontre littéraire avec le ou la candidate qui auront été retenus dans le cadre d'un appel à candidature pour une résidence d'écriture francophone que l'IDAF organise en partenariat avec l'ALCA Nouvelle-Aquitaine. Et donc cette année, la lauréate est une autrice camerounaise, Hermine Yolo, elle nous présentera son roman qui s'intitule « Les racines du baobab totem, agripper la lune », très joli titre, très, très, très poétique. Je ne sais pas pour le reste ce qu'il y a dedans, je le découvrirai en même temps que vous. Et donc, cette rencontre littéraire sera pareillement sera diffusée via Facebook elle sera enregistrée donc depuis la Mecca sa diffusion aura lieu le mercredi 27 janvier à 19h.
D'accord.
Alors, je n'ai pas de détailler tous les événements, mais le 22 mars, donc, il y aura une conférence performance sur le thème eau et climat, source de vie et défis écologiques sur le continent africain. Donc là, on est en plein dans notre sujet. Le vendredi 2 avril, au Muséum de Bordeaux, il y aura encore une table ronde sur quel partenariat entre les territoires néo-aquitains et africains pour le développement durable. Voilà, si vous voulez, quelques événements qu'on a réussi à garder tout en essayant, bien évidemment, comme je l'ai dit, de nous adapter au contexte sanitaire que nous connaissons.
D'accord. De toute façon, toutes ces informations-là, on peut les retrouver sur la page Facebook
toutes
de l'Institut des Affaires.
Les informations sont diffusées au fur et à mesure sur la page Facebook de l'IDAF.
D'accord.
Comme vous l'avez dit vous-même, c'est une semaine qui va s'étaler donc de janvier. Ça démarre la semaine prochaine et elle se continuera jusqu'au mois de mai prochain.
D'accord. Et est-ce que finalement, ça ne vous permettrait pas de vous mettre en lien avec d'autres personnes, d'autres acteurs culturels, peut-être d'ici à mai?
Ah ben écoutez, de toute façon, l'un des objectifs de la Semaine des Afriques, c'est précisément d'essayer de susciter des partenariats, d'essayer de susciter des synergies, de faire en sorte aussi que les acteurs qui travaillent sur les Afriques et avec les Afriques se connaissent, se rencontrent. Ce n'est pas toujours le cas. On est sur un territoire, celui de l'agglomération bordelaise, celui de la Nouvelle-Aquitaine, sur lequel il y a une présence de diaspora africaine importante. C'est une chance. On est également sur un territoire où les synergies avec le continent africain sont nombreuses, multiformes. Mais malheureusement, tous les acteurs ne se connaissent pas forcément, n'ont pas forcément non plus l'habitude de travailler ensemble. Et on espère que la Semaine des Afriques, justement, permet de surmonter ces obstacles-là, d'apprendre à mieux se connaître et donc d'avoir envie de travailler ensemble.
Donc, nous avions vu que vous aviez fait un appel à projet autour de trois axes principaux pour cette sixième édition. Il y avait les innovations écologiques, l'écologie made in Africa et les défis environnementaux. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus amplement?
Ben, disons que on a effectivement détaillé l'intitulé générique de la Semaine des Afriques, qui est, je le rappelle, les défis écologiques, de manière à ce que le nombre le plus élevé possible d'opérateurs puissent répondre. Alors, on a eu effectivement un nombre relativement important de propositions. Et on a donc procédé à un arbitrage sur un certain nombre de critères, sur la pertinence du projet, sur sa faisabilité, sur son intérêt par rapport à la thématique générale. Et donc tout ceci nous a permis, en affinant la sélection, donc d'arriver au programme tel qu'il se présentait initialement. Donc voilà, c'est Alors, on ne va pas décliner chacun de ces trois sous-thèmes, je dirais, de manière indépendante et de manière détaillée, parce que si je prends par exemple le cas de la table ronde sur les enjeux environnementaux du 21e siècle, donc celle qui aura lieu le mardi prochain à 10h, ben il est évident qu'elle va croiser les trois sous-thèmes que vous avez évoqués. Idem en ce qui concerne la conférence performance eau et climat du 22 mars 2021. Donc voilà, si vous voulez, un peu la manière dont nous allons procéder. On ne va pas cloisonner les trois sous-thèmes. Au contraire, ils sont en interaction les uns avec les autres et on va essayer de les appréhender dans leur globalité.
D'accord. En tout cas, oui, c'est totalement un sujet qui est d'actualité en ce moment. On sait que dans ce monde globalisé, les territoires africains subissent très fortement les conséquences du réchauffement climatique. Voilà, on a pu le lire un peu sur votre site, notamment les vagues de sécheresse et les inondations très récurrentes. Voilà. Donc on peut observer que les problématiques environnementales sont prises en compte sur les plans politiques et citoyens en Afrique.
Alors ça, c'est une réflexion qu'on va avoir, bien évidemment. Mmh. La question est alors bien évidemment il s'agit d'abord de poser le constat et de l'analyser, c'est-à-dire comment se pose la problématique des défis écologiques en Afrique. Est-ce qu'il y a une spécificité, est-ce qu'il y a une particularité, est-ce que les ces défis qui se rencontrent dans tous les pays du monde et sur tous les continents. Il n'y a pas un pays aujourd'hui qui peut prétendre échapper à une réflexion sur l'écologie, sur le changement climatique, malgré ce qu'en disent certains. Mais est-ce qu'il y a, encore une fois, est-ce qu'il y a une spécificité africaine par rapport à cela? C'est une question qui sera posée et sur laquelle il s'agira également de réfléchir. Alors, ça, c'est pour le constat. Et puis ensuite, il y a la question de la prise en charge. C'est-à-dire comment les sociétés africaines, comment les pays africains, comment les États africains, comment leurs partenaires internationaux entendent agir sur ces défis écologiques, entendent agir sur le réchauffement climatique dont vous avez dit vous-même qu'il affectait fortement les pays africains et en particulier les pays de la bande sahélienne. Donc ça, c'est également quelque chose sur lequel nous entendons travailler, nous entendons réfléchir dans le cadre de cette semaine-là, en laissant bien évidemment au maximum la parole aux acteurs africains eux-mêmes.
Bien sûr. Et est-ce que vous allez, je me doute que vous allez aborder le thème du progrès. Et ce qui me semblait intéressant de souligner, c'est que vous parliez de tradition et de savoir-faire africain. Traditionnel. Et je me demandais il fallait pas faire la contradiction entre l'idée de progrès et cette idée de tradition, parce qu'à mon avis il faut que les deux aillent de pair et que le retour à des formes traditionnelles de production est finalement un progrès en quelque sorte.
Oui, alors il y a toute une réflexion à avoir sur la notion de tradition. Parfois, dans certains discours, on fait dire un peu à la tradition tout ce que l'on veut. On manipule cette notion un peu dans tous les sens. Donc, je crois qu'il y a effectivement une réflexion à avoir là-dessus. Mais la chose fondamentale, me semble-t-il, que je voudrais souligner, et là, je fais parler un peu mon mon background d'universitaire, de chercheur, c'est que la tradition n'existe pas en tant que telle. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps et qui a traversé les siècles de façon immuable, sans se transformer, sans évoluer, sans s'adapter, etc. Donc, plutôt que de tradition, moi, je préfère parler de réinvention de la tradition pour justement mettre l'accent sur ce que le concept ou la notion de tradition peut avoir de dynamique, contrairement à ce qu'on dit une version un peu figée de la tradition.
Oui.
Donc, une fois ce travail, je dirais, conceptuel fait, oui, effectivement, on peut se poser la question de savoir comment, en quoi, dans quelle mesure les savoirs locaux, les savoirs traditionnels peuvent être investis dans la lutte contre la dégradation de l'environnement, contre la pollution, contre le changement climatique, pour la mise en place d'une agriculture durable, pour l'aménagement des villes également dans une perspective durable. Ça, c'est une question importante. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, et les démographes le savent bien, l'Afrique est de moins en moins rurale et de plus en plus urbaine. Il y a plusieurs villes aujourd'hui en Afrique. Je prends le cas de Lagos, je prends le cas de la ville du Caire, je prends le cas de Kinshasa, le cas de Nairobi. On a des villes aujourd'hui qui sont de véritables mégapoles, comptant plusieurs millions, voire parfois même plusieurs dizaines de millions d'habitants. Le Caire, c'est 20 millions d'habitants. Et donc la problématique des villes durables se pose de manière particulièrement cruciale. Comment faire en sorte que les villes ne soient pas des réservoirs de pollution? Comment faire en sorte que qu'on puisse vivre dans les villes, qu'on puisse accéder aux services de base, l'eau, la nourriture, aux services sociaux de base, les soins de santé? Comment avoir accès aux fonciers, comment avoir accès à tout un tas d'équipements culturels, sportifs, médicaux, sanitaires, etc. etc. Là, on a un défi tout à fait considérable et qui montre bien que la question de l'écologie ne peut pas être posée indépendamment d'autres questionnements. Comme je l'ai dit là, la santé, l'éducation, l'habitat, la ville durable, etc., etc., etc.
Ouais, c'est bien plus global finalement.
Absolument. On voudrait mettre en avant une vision globale de l'écologie. On ne saucissonne pas l'écologie. Il n'y a pas d'un côté l'agriculture. Voilà, il faut avoir une vision globale et je crois que c'est une écologie dynamique, c'est vers ça, me semble-t-il, qu'elle doit tendre.
D'accord. Et est-ce que vous aborderez le sujet du rôle de la France et d'autres pays et de leur partenariat avec l'Afrique?
Alors, j'imagine que ce sera abordé. Il n'y a pas de conférence ou de table ronde consacrée spécifiquement à cette question-là, mais il est évident que ce sera évoqué à un moment ou à un autre. Je parlais il y a quelques instants de la ville durable. Mmh. Vous savez que c'était le thème du sommet Afrique-France qui était programmé pour le printemps de l'année dernière, qui a dû être donc annulé, en tout cas reporté pour cause de crise sanitaire. Et cette question donc de la ville durable devait figurer au centre de ce sommet. Donc c'est pour dire à quel point c'est un enjeu crucial. Donc je ne sais pas si la dimension internationale sera abordée de plein pied comme ça. Peut-être oui, peut-être non. Mais en tout cas, on sait parfaitement que c'est une question qui doit être traitée à un moment ou à un autre.
D'accord. Je voulais revenir sur un terme, vous parlez des Afriques au pluriel. Ce pluriel n'est peut-être pas évident pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ?
Oui, ça c'est une question récurrente qu'on me pose souvent, qui donne parfois lieu à des discussions un peu animées, on va dire, avec certains de nos partenaires issus du continent africain, ici à Bordeaux et ailleurs. Cela nous disent, et de leur point de vue, ils ont sans doute raison, de leur point de vue, je dis bien, militent pour une Afrique indifférenciée au singulier. Nous avons choisi à l'Institut des Afriques, justement, de retenir plutôt le pluriel pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous avons la conviction que même si tous les pays africains au nord du Sahara comme au sud du Sahara partagent un certain nombre de traits communs, il n'en demeure pas moins qu'ils sont aussi différents, ils ont des expériences différenciées de la colonisation, ils n'ont pas forcément tous la même trajectoire politique, ils n'ont pas forcément non plus la même trajectoire économique. Il y a donc des différences importantes entre les pays eux-mêmes, à l'intérieur des pays eux-mêmes parfois, puis entre grandes régions, je dirais, géopolitiques, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, etc., même si j'ai bien conscience que ces distinctions sont également le fait de découpages coloniaux. Mais il ne demeure pas moins que des différences existent. Donc ça, c'est un premier point. Puis le deuxième point, c'est parce que, comme je vous l'ai dit au tout début de cet entretien, les Afriques, pour nous, ce n'est pas simplement le continent africain, mais ce sont également les diasporas africaines présentes sur nos territoires. Ce sont les Caraïbes, ce sont les sociétés issues de la traite négrière, de la traite atlantique. Et tout ceci autorise donc, ou en tout cas, oblige même à parler de l'Afrique au pluriel et non pas au singulier.
D'accord, mais je vous remercie en tout cas pour ces informations et cette description plus détaillée du coup, parce que bon, évidemment que l'Afrique au singulier c'est assez réducteur, mais du coup c'est intéressant, je pense, pour les personnes qui sont pas forcément informées d'avoir ces explications.
Mais en tout cas, merci à vous.
Je voulais enfin m'attarder sur les enjeux locaux de cette semaine des Afriques.
Oui.
Donc à Bordeaux, pour les Bordelais, pour la diaspora africaine. J'aimerais savoir pourquoi il est important qu'un événement comme celui-ci soit maintenu malgré le contexte de crise sanitaire dans lequel nous sommes.
Oh, parce que la nécessité déconstruire, pour reprendre le terme que vous avez utilisé à juste titre, la vision négative des Afriques qui persiste dans nos sociétés, ben il est important de maintenir cet événement, quitte évidemment, comme je l'ai dit, à revoir son format, à diminuer malheureusement la voilure. Aujourd'hui, il est encore urgent, il est nécessaire de lutter contre cette vision négative de l'Afrique. Il est important de dire que les discriminations existent toujours, que le racisme existe toujours, malheureusement, que ce combat contre toutes les formes de racisme doit être poursuivi, parce qu'il en va du vivre ensemble. Et une semaine des Afriques telle que celle-ci permet, du moins je l'espère, justement de contribuer au vivre ensemble.
Bien sûr, bien sûr. Et je voulais également revenir sur un point que je n'ai pas abordé finalement, mais vous m'y faites penser. C'est le thème de la jeunesse aujourd'hui, les mouvements sociaux qu'on a pu observer, et notamment de la part de jeunes, sont à mon sens très importants pour lutter notamment contre le racisme. Et donc peut-être qu'un événement comme la Semaine des Afriques va mettre l'accent sur ces discriminations qui sont toujours belles et bien présentes, et on s'en rend d'autant plus compte ces derniers temps, puisqu'elles sont soulignées à de nombreuses reprises.
Tout à fait. Ça, je dirais, c'est une préoccupation centrale à l'Institut des Afriques. Depuis sa création, en 2015, l'IDAF a à cœur lutter contre les stéréotypes racistes, contre la xénophobie, de lutter contre l'image dépréciée des Afriques qui est mise en avant par, comme je l'ai dit, par pas mal d'acteurs, de personnes, de discours. Dans ce cadre-là, le rôle des jeunes, le rôle des jeunes africains, des jeunesses africaines, sont particulièrement importants parce que ce sont des agents de changement. Vous l'avez dit, ce sont les jeunes qui ont été à la pointe des revendications démocratiques dans plusieurs pays africains ces dernières années. Ce sont des jeunes issus de ce qu'on appelle la société civile qui ont été à l'origine de mouvements citoyens au Burkina Faso, au Sénégal, au Mali, ailleurs également. Et donc, il est important, effectivement, de faire en sorte de faire entendre la voix de ces jeunes, parce qu'ils représentent l'avenir de l'Afrique. Les populations africaines prises dans leur globalité sont des populations extrêmement jeunes, plus jeunes qu'ailleurs dans le monde, et il y a là un potentiel politique, économique, social extrêmement important. Il est également de la responsabilité de l'Institut des Afriques de permettre que ces dynamiques-là puissent s'exprimer.
Mmh. Oui, on a vu qu'en effet, comme vous le disiez, partout dans le monde, que ce soit en France ou en Afrique ou ailleurs d'ailleurs, la jeunesse se mobilise. Il y a un certain pessimisme d'un côté qui a émergé, puisqu'on n'arrive plus à se projeter sur le long terme. Là, ça fait référence à la crise environnementale, mais pas que. C'est global, comme on disait. Je pense que ce terme est important.
D'ailleurs, à ce sujet, je voudrais faire peut-être une petite digression pour alerter sur la situation tout à fait dramatique aujourd'hui de beaucoup d'étudiants. Des étudiants africains, beaucoup, mais pas uniquement des étudiants africains, des étudiants en général,
ouais,
qui vivent très très mal la période que nous traversons, la crise sanitaire que nous traversons, avec les deux confinements successifs. Beaucoup d'étudiants aujourd'hui ne reçoivent plus leur bourse, donc sont dans l'incapacité de tout simplement de manger à leur faim. Ils sont souvent isolés parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Ils sont isolés sur leur campus, dans leur chambre universitaire. Les cours sont interrompus. Dans la plupart des cas, il n'existe plus que des cours en distanciel. Et donc, la solitude, l'isolement agissent de manière extrêmement négative sur le moral de ces étudiants-là. Et c'est un véritable cri d'alarme que je lance, parce que la situation est parfois dramatique au-delà de ce que nous pouvons imaginer.
Oui.
Donc il faut vraiment se mobiliser pour que ces étudiants arrive à surmonter sans trop de dégâts psychiques la période extrêmement difficile que nous traversons.
Ben, merci de revenir, en tout cas, sur ce point-là, qui est en effet tout à fait d'actualité, puisque la vie étudiante est mise en péril en ce moment, complètement. C'est vraiment bien, je pense que vous mettiez un point d'honneur là-dessus, surtout en tant que professeur.
Mais je crois que on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion là-dessus. On touche du doigt, je dirais presque, ce genre de situation aujourd'hui. Et malheureusement, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il faudrait en parler davantage. Il faudrait davantage de mobilisation. Il faudrait des actes concrets en termes de solidarité, parce que c'est important et parce que cette jeunesse, quelle qu'elle soit, en France, en Afrique, ailleurs, ben c'est l'avenir. C'est notre avenir.
Il me semble qu'il y avait un rassemblement aujourd'hui à 14h à la Victoire, des étudiants qui...
D'accord, vous me l'apprenez. Vous voyez, je n'étais pas au courant. Je n'habite pas à Bordeaux, mais voilà. Mais
donc, en fait, je viens de m'en rendre compte que c'était hier.
C'était
hier à 14h, mais voilà. Donc, les initiatives sont quand même mises en place, mais de la part des étudiants.
Voilà, je voudrais dire également qu'une des structures membres de l'IDAF, le COSIM Nouvelle-Aquitaine, fait un travail très convaincant, très suivi auprès des étudiants africains en particulier, auxquels il apporte un soutien. Alors, ça peut être un soutien d'ordre psychologique, ça peut être un soutien d'ordre pour les aider à effectuer les formalités administratives qui s'imposent à eux. Et puis le COSIM s'est également signalé par la distribution de colis alimentaires il y a quelque temps de cela, pendant le premier confinement, parce que précisément beaucoup d'étudiants, et pas seulement des étudiants africains, comme je l'ai dit, ne pouvaient plus se nourrir et n'avaient plus à manger à leur faim.
Oui.
Donc il était important de faire des gestes de solidarité très concrets.
Oui. Bien, je vous remercie de nous avoir accordé ce temps, d'avoir présenté ce projet de la Semaine des Afriques, qui permet d'entrer plus amplement dans la diversité du continent africain, des Afriques, des diversités politiques, économiques et également écologiques. Voilà, nous espérons que nous vous recevrons pour la 7e édition, en tout cas.
Ce sera avec grand plaisir.
Peut-être en face à face cette fois.
Je l'espère aussi.
Mais
ça voudrait dire que la situation sanitaire s'est améliorée. Mmh. Espérons-le.
Nous l'espérons.
Voilà.
Bon, je vous souhaite une agréable journée.
Merci à vous aussi.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.
Nous espérons que ce dernier épisode de Donner la voix vous a plu. Je vous laisse avec une musique intitulée Kélé, de l'autrice, compositrice et interprète malienne Fatoumata Diawara.
kekele nye ka kekele an wolo nou e. Kelele zinyi man fila varan lan.